savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Quand on est en haut des sondages, ça vient avec beaucoup plus de gens qui te scrutent à la loupe, Mario.
Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu vas me parler de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un peu... Je dirais en langage de tennis, ils appellent ça c'est une faute non provoquée, les analystes de tennis. C'est-à-dire que c'est pas l'adversaire, t'as pas envoyé un smash ou un coup. T'as juste une balle au centre du terrain, puis pour une raison, une petite, tu l'envoies dans le filet. Ouais. Puis toi-même, tu comprends pas. Voyons pourquoi j'ai envoyé ça dans le filet. Là, tu vois, les joueurs vont être frustrés contre eux-mêmes. J'ai un peu ce sentiment-là aujourd'hui. Donc, vas-y, mais il s'est mis pied d'un plat.
Oui, mis pied d'un plat, puis quand même pas à peu près. Là. Se trouve au Salon Bleu, un échange avec le premier ministre François Legault. Et là, ben, dans l'échange, lui est en train de poser des questions. On demande à M. Legault, ben là, est-ce que vous engagez à tenir un référendum sectoriel sur l'immigration si jamais Justin Trudeau refuse vos demandes là, en matière d'immigration? Et là, ben, François Legault, un peu picot vif, lui répond et dit, ben regardez, est-ce que M. Paul-Saint-Pierre Plamondon va lui-même, s'il y a un troisième référendum d'indépendance, puis que c'est refusé et que ça marche pas, est-ce qu'il va revenir dans la CAQ?
Est-ce qu'il va prendre sa carte de membre de la CAQ?
Voilà. Et là, en réponse à tout ça, M. Saint-Pierre Plamondon fait un geste, une expression qui mime, qui singe une expression bien connue quand on est un peu déprimé, tu sais. Ah, ça me donne le goût de m'ouvrir les veines. Tu comprends?
Il fait le geste de s'ouvrir les veines.
Mais fait le geste de s'ouvrir les veines comme ça à l'Assemblée nationale, et là, ça passe pas du tout. François Legault reprend ça, l'ordi, dans des images qu'on n'a pas pu voir, là. La caméra était pas braquée à ce moment-là.
Non,
sur
les caméras
monsieur
de l'Assemblée sont toujours uniquement sur la personne qui a la parole. Donc, tu peux pas... C'est pour ça, si vous demandez, on n'a jamais d'image quand il y a... Non, t'as jamais d'image quand il y a d'autres choses qui se passent, quelqu'un qui sort, qui claque la porte. La règle... Maintenant, c'est un petit peu plus souple qu'avant. Des fois, ils vont élargir. On voit la personne qui parle, puis on voit un peu autour. Mais, ou des fois, quand il n'y a personne à la parole, tu vas voir la plan d'ensemble du Salon Bleu.
Mais dans ce cas-ci...
Mais il n'y a pas de ce qu'on appelle en TV une reaction shot. Tu sais, comme dans un débat des chefs, là, un parle, mais on va mettre la caméra sur l'autre pour voir, tu sais, quand il se fait parler dans le casque, comment sa réaction. Il n'y a pas ça à l'Assemblée nationale. Donc, c'est que celui qui parle qui a la caméra braquée, ouverte sur lui.
Là. Voilà. Et là, même si on avait pu tourner là, du côté de M. Saint-Pierre Plamondon en dérision les dernières attaques sur lui la semaine dernière quand on parlait qu'il était un peu soupe au lait du côté de ses adversaires, ben là aujourd'hui, c'était pas le ton du tout à adopter. C'est des excuses en règle sincères qui ont été présentées par le chef du Parti québécois.
Il l'a fait sur X là, tout de suite après la période des questions.
Oui, en disant qu'il avait fait ça de manière spontanée, c'était une boutade, faisait ça sur le ton de l'humour, mais comprend que c'est pas drôle, retire tout de suite ses propos, excuse aussi. Parce qu'on se comprend. L'expression, je veux dire, peut être lancée à tort à travers, mais de faire le signe, c'est quand même le symbole d'un suicide.
C'est
là.
Ça, le geste de s'ouvrir les veines au Salon Bleu, c'était certainement bizarre. Plusieurs ont dit inapproprié, mais moi, c'est pris individuellement, bon, la semaine passée, soupe au lait, là, il est parti d'une commission parlementaire, c'était pas vraiment grave en soi. Aujourd'hui, on peut dire, ben, c'est une maladresse. C'est juste que là, faudrait pas qu'à toutes les semaines, il soit obligé, au sortir de la période de questions, d'envoyer un message pour expliquer ou excuser ou justifier. Ça devient problématique pour lui. Puis ça, c'est drôle parce que les fameuses distractions que François Legault disait qu'il voulait éviter. Maintenant, c'est un peu comme Paul-Saint-Pierre Plamondon qui va dire dans quelques jours, ben là, moi, faut que j'essaie d'éviter les distractions parce que là, il y a encore un excellent sondage au cours des dernières heures qui le place en premier. Ça a arrêté de monter, mais il reste quand même loin en première position. Sauf que ces éléments-là, à mon avis, commencent à causer de la friture sur les ondes. Puis, soulever un peu la question, là, est-ce que les péquistes sont, vu que ça va bien, est-ce qu'ils sont en train de devenir trop confiants? C'est le genre de questions qu'on va se poser, là.
Actualité.
Toujours à l'Assemblée nationale, le ministre des Services sociaux délégué à la Santé, Lionel Carman, qui a dû réagir aujourd'hui à une enquête qui a été publiée tout d'abord là, dans les pages du quotidien La Presse. Histoire d'horreur, Mario. Là. Franchement, là, pour ceux qui ne l'ont pas lu, histoire d'horreur absolue qui décrit, là, si je le résume rapidement, une maison là, de famille d'accueil de la DPJ qui, depuis là, presque 20 ans, était en train d'accueillir des jeunes et encore des jeunes qu'on envoyait dans cette famille d'accueil-là, qui était considérée comme une ressource excellente là, pour les jeunes qu'on envoyait. Le problème, ben, c'est que dès 2004, il y avait une adolescente qui avait décrié des agressions sexuelles qu'elle avait vécues dans la maison elle-même par les gens de la famille d'accueil, et que là, Mais on l'avait pas cru à l'époque. Ça a pris jusqu'à...
Mais pas cru au point où c'est elle qui a subi là, immédiatement des sanctions, des conséquences. Ils sont débarqués à l'école, fouillé sa case.
Oui, parce que quand elle a dénoncé celui qui l'agresseur en question, le père de la famille, dit tout de suite
problème de drogue,
problème d'attitude. Puis c'est elle qui a été traitée en criminelle à l'époque.
Puis je pourrais comprendre qu'à la DPJ, on nous dise, mais là, quand un jeune nous signale quelque chose comme ça, on prend pas ça pour du cash tout de suite. Ça, je pourrais le comprendre. Mais qu'on décide, tu sais, qu'on reste prudent, qu'on fasse davantage de vérifications, ce serait normal. Mais qu'on développe aucune prudence, qu'on dise, qu'on accepte tout de suite, là, c'est le jeune qui ment.
Ouais, pis...
C'est un département de protection de la jeunesse, c'est un organisme de protection de la jeunesse. Un jeune te dénonce quelque chose de grave qui pourrait être vrai et toi, tu décides sans vérification que c'est faux, tu punis le jeune puis tu gardes aucune vigie, là, aucun œil particulier à dire « OK, mais là, dans cette famille-là, c'est quoi l'affaire? On est-tu sûr? » Et pendant les deux décennies suivantes, cette maison-là devient ce que la presse décrit ce matin comme une maison de l'horreur. Là.
Ben oui, absolument, parce que c'est pas la seule victime qui s'est manifestée depuis ce temps-là. Là. En 2021, il y a une autre victime qui est sortie pour décrier tout ça, puis c'est à ce moment-là seulement qu'on a décidé d'arrêter d'envoyer des enfants à cet endroit-là. Mais pendant ce temps-là, ben, il y a au moins 6 victimes là, déjà qui se sont manifestées, mais surtout, là, 8 agresseurs différents dans cette maison, dont 3 hommes adultes. Là, on comprend qu'il y aurait le père de la famille...
Le beau-frère, parce que des fois, on amenait les jeunes chez le beau-frère, puis on arrêtait, il y a une histoire racontée, on aurait arrêté au Tim Hortons en chemin pour acheter un café aromatisé pour pouvoir dissoudre dedans des drogues pour comme...
Endormir ou assommer
la jeune personne, la mineure, héberger. Là. T'es une jeune qui est supposée être en protection de la jeunesse. Donc, il se fait amener chez le beau-frère pour en abuser, puis on la drogue en chemin. Puis là, quand le fils de la famille a eu 18 ans...
S'est mis à abuser lui aussi.
Ben, à son tour, embarque dans le club.
C'est absolument horrifiant. Là.
Incroyable,
c'est...
vraiment.
Ouais. Oui, parce que quand on dit maison de l'horreur, c'est que c'est quelque chose, un comportement et un climat qui a fini par normaliser, si on veut, des agressions sexuelles qui étaient répétées après ça à l'intérieur de la maison par d'autres jeunes, dont le fils de l'homme en question qui tenait la résidence. Vraiment, histoire ahurissante. Puis comme je disais, mais le ministre Lionel Carman a dû réagir là, quand même. Là. Lui dit ne jamais avoir été mis au courant de cette histoire-là, qu'il n'y a pas de mécanisme de protection, là, de lumière qui se sont allumées pour être capable de lui faire dire qu'il y avait un problème à cet endroit-là. Il a veut demander...
Non, mais en fait, moi, j'accepte que le ministre n'était pas au courant de ce problème-là. Mais le ministre doit prendre conscience d'un problème de fonctionnement à la DPJ. D'un problème de... Si c'est arrivé, d'un problème de protection de la jeunesse, d'un problème de... Comment t'as pu considérer pendant 20 ans qu'un lieu, une maison d'abus systématique, d'abus partagé par plusieurs agresseurs qui se faisaient une espèce de marchandise sexuelle des jeunes qu'on leur confiait. Comment t'as pu pendant aussi longtemps la DPJ mettre ça comme une maison modèle, là, une maison, une famille d'accueil l'idéal? Je veux dire, c'est pas qu'une erreur de lecture des événements. Un, deux, si je suis ministre, moi je me dis, OK, là, si la DPJ laisse passer quelque chose de gros comme ça pendant aussi longtemps,
ouais.
Imagine la petite maltraitance au quotidien, comment ils voient rien, là.
Ah non, c'est...
Imagine.
Ça soulève tellement de drapeaux rouges, Mario, cette histoire-là, sachant en plus toutes les nouvelles qu'on reçoit sur la DPJ dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Là, les histoires de centres qui sont complètement désuètes, l'utilisation de chambres, là, de salles de contention dans lesquelles on enferme des jeunes qui ressemblent quasiment à une cellule de prison. La semaine dernière, le tiers des jeunes qui sont placés à la DPJ, qu'on se rend compte qu'ils sont sans emploi, sans scolarité au moment où ils arrivent à 21 ans, les problèmes, ils s'accumulent.
Ce matin, j'ai parlé à Maître Valérie Assouline, spécialisée en droit de la famille, qui fait beaucoup de dossiers de DPJ. Elle me disait qu'à sa connaissance, quand ça sort, là, parce que là, disons tout, là, Éric Jean, le père de famille de la maison, il est en prison présentement, il a été condamné au mois de novembre. Le beau-frère est en attente de procès. Le fils est en attente de procès. C'est-à-dire, la police est débarquée dans la maison. Depuis 2021, il s'est passé des choses dans les dernières années. Mais j'ai demandé à Maître Assouline, est-ce que, quand il y a eu ces plaintes-là, qui ont été prises au sud, là, on a des plaintes de 2 jeunes filles, puis la presse en aurait trouvé 3 autres. Mais est-ce que la DPJ a fait un interrogatoire, des entrevues, dans une enquête sérieuse? avec tous les jeunes qui sont passés dans la maison, parce que moi, ce qui me concerne, c'est un automatisme. Une fois que tu sais que c'était une maison, que ça allait pas, on parle de environ 70 jeunes là, qui se sont succédés au fil des années. Bon, on comprend que là-dedans, il y en a qui ont aujourd'hui 30-quelques années, il y en a qui ont 20-quelques années, mais je pensais, moi, je me disais, faut aller les voir un par un pour leur demander, mais qu'est-ce que vous avez vécu dans la maison? Qu'est-ce que vous avez vu? Parce que tu pourrais avoir, exemple, des gars qui ont été hébergés dans la maison qui vont dire, ben, regarde, moi, il m'est jamais rien arrivé, il attaquait juste les filles, mais je me suis été conscient que le soir, il y en a, le soir, le bonhomme rentrait dans la chambre, telle affaire. Tu sais, une enquête complète, c'est une enquête complète. Tu vas demander à tous ceux qui auraient pu être témoins de quelque chose? Rien.
Ben, en plus, pire que ça, Mario, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des dossiers d'enfants de la DPJ qui sont tout simplement pas conservés après un certain temps. On dit, là, maintenant, ce qu'explique là, le ministre, c'est que les dossiers d'enfants sur la DPJ vont être conservés 25 ans après l'atteinte de la maturité.
Mais à l'époque, mais ça, c'était 5 ans, les dossiers étaient brûlés.
Ben oui, puis le dossier, donc, de la première jeune fille, aujourd'hui une jeune femme, jeune fille à l'époque, celle qui a été agressée en 2004 et qui a dénoncé, elle, son dossier, il était volatilisé.
Plus de traces de rien, là. Ouais.
Plus de traces de rien. Fait qu'après ça, bonne chance, Mario, pour trouver tous les jeunes qui sont passés par cette maison-là. Si, en plus, t'as pas les dossiers, t'as pas de récit d'événement, il y a même pas moyen de savoir si, à tel moment, telle époque, il y a un jeune qui a porté plainte puis on l'a ignoré. On peut pas le savoir. C'est
mais
fou.
C'est une des nouvelles, disons, bien sombres du jour.
Tout savoir en 24 minutes.
Autre nouvelle sombre, mais peut-être soulageante pour les proches et la famille de Jesse Duchesneau, ce jeune qui était disparu là, le 4 novembre dernier à Québec, qui a finalement été retrouvé, pas retrouvé, je veux bien évidemment dire, sa dépouille retrouvée dans le fleuve Saint-Laurent, là, dans le secteur de Saint-Michel-de-Bellechasse où on a retrouvé.
Là, donc très loin du dernier endroit où on l'avait vu, le long de la rivière, parce que c'était, pour les gens qui s'en souviennent pas, c'était à la sortie des bars, on avait des images de lui sortant du bar, il avait l'air, bon, soit drôle, ou parce que confus. Puis après ça, on avait d'autres images de caméras de surveillance où là, il était rendu sur le bord de la rivière, beaucoup plus loin, mais sur le bord de la rivière Saint-Charles.
Exactement, là, des images qu'il montrait qui sortaient d'un stationnement souterrain, marchait près de là.
Son sel avait été retrouvé dans ce coin-là.
Son téléphone avait été retrouvé dans ce coin-là, mais lui, jamais avait été retrouvé. Et là, ben finalement, c'est pas mal cette thèse-là qui se concrétise, Mario, celle qui serait tombée, là, intoxiquée, que ce soit sur une drogue quelconque ou avec de l'alcool. Là,
mais c'est sûr que l'impression, c'est que quelqu'un l'a drogué. Là. Moi, je reste sur ce feeling-là, parce que les quantités d'alcool, oui, il était chaud, mais je veux dire, pas ce que ses amis racontent, pas à perdre, pas à poser des gestes, pas être perdu comme ça. Puis souvent, l'alcool, tu vas plus tomber endormi. Mais là, il était comme un robot, marchait droit dans lui. En tout cas.
Vraiment un comportement étrange là, qui a été décrié par ses proches, qui, comme tu le dis, là, continue d'affirmer qu'il a dû être drogué quelque part. Mais là, la thèse, pour l'instant, on ne se dirige pas vers une hypothèse criminelle. Ce serait vraiment qu'il aurait marché, vu serait tombé accidentellement dans la rivière Saint-Charles, qui a fini par porter son corps pas mal plus loin.
Pas mal. Donc, la rivière de Saint-Charles vers le fleuve, puis dans le fleuve jusqu'à Saint-Michel-de-Bellechasse.
C'est ce qu'on semble comprendre. Pour la famille, là, la pilule est évidemment difficile à avaler, mais quand même, ça va mettre un terme.
Ben, c'est toujours l'entre-deux. Là. Quand une famille retrouve le corps, c'est la fin de tous les espoirs. Ben. Parce que tu as toujours l'idée de le retrouver vivant, là, qui est rendu, je sais pas où, dans une autre province, ou tu sais, où c'est caché, ou quelqu'un l'a caché. Toujours cette hypothèse ou cet espoir-là. Mais de l'autre côté, ils vont toujours finir par dire ben, c'est moins pire que l'inconnu, là, l'absence de réponse, où tu t'es...
Pouvoir commencer son deuil.
T'as une réponse triste, mais au moins t'as une réponse.
Ouais, surtout que dans les prochains jours, on se préparait à organiser encore des fouilles du côté des bénévoles là, qui ont cherché. Je rappelle, il y avait des dizaines et des dizaines de bénévoles qui s'étaient déplacés pour aller fouiller, pour tenter de le retrouver. Et là, on se préparait à aller dans le coin de l'île d'Orléans, faire le tour au complet pour voir si on ne peut pas le trouver dans l'eau. Ça va épargner tout ça, au moins.
Tout savoir en 24 minutes.
Bon, il y en a des enjeux importants, Mario. On vient de parler de DPJ, on vient de parler de toutes sortes de choses. Mais le vrai problème, selon un des élus du Parti conservateur du Canada, il part en croisade contre ça, ben c'est la fin des pailles en plastique, Mario. Ben oui, le lendemain du jour de la Terre, le lendemain où on a ben, un sommet là, qui se démarre sur l'usage et la pollution du plastique dans le monde, ben les conservateurs ont décidé que c'était ça qu'ils voulaient faire, de ramener les plastiques à usage unique, là. Les sacs, les ustensiles, les pailles, tout ça. Puis ça fait tout un tollé sur les réseaux sociaux, Mario, en ce moment.
Ça lance tout un débat, les pailles en particulier. Moi, j'avoue que dans tout ça, je comprends mal la bataille des conservateurs. Je pense qu'ils mettent à risque leurs gains chez les jeunes. En fait, des gains importants chez les jeunes. Je suis le premier à dire qu'il s'est fait en matière de gestion du plastique des absurdités totales. Exemple, on ne donne plus dans les commerces des sacs de plastique, parce qu'on dit, ah, il y a trop de sacs de plastique. Mais la forte majorité de la population va dire, ouais, nous autres, on mettait ça dans la poubelle de la salle de bain, on prenait, on les gardait, on se faisait un sac de sacs, on les mettait dans la poubelle de la cuisine. Et maintenant, les ventes de rouleaux de sacs ont explosé. Mais... Donc, on a un sac réutilisable. Fait que là, on sort de l'épicerie pis on est comme un champion de l'environnement. Mais si tu fouilles dans le fond de mon sac réutilisable, comme je n'ai plus de sac de plastique parce que ça n'existe plus, ben j'ai un rouleau de 100 sacs que je vais mettre. Mais tu dis, OK, mais là, c'est absurde. Absurde.
Oui.
Le cas des pailles, ça semble que c'est vraiment problématique pour l'environnement. En même temps, on les a pas encore... Ben oui, il y en a qui sont corrects, d'espèces de pailles en cire.
Ouais,
il y en a en carton qui finissent par te rouler dans la gueule. Tu ouais, dis, là, mais... Ça, c'est pas acceptable.
Mais à ce moment-là, je veux dire, t'en prends une autre, là. C'est du carton. C'est 100 fois moins dommageable que t'en prends en plastique. Et,
ouais, hey, là, t'en prends deux, là.
T'en prends une deuxième. Honnêtement, j'ai de la difficulté, moi, je t'avoue, depuis ce matin, Mario, à cerner... Qu'est-ce qu'on essaie d'aller faire comme gain, comme ça? Y a-tu vraiment des gens qui se sentent lésés là, par leur manque de paille en plastique, qui sont en rue là, déprimés? Ah, ma paille a fondu, je peux plus boire mon drink. Je sais pas, moi, ça me sort de. Je sais pas. Je t'avoue que.
Oui, mais là, c'est parce que. Ouais. Parce que l'abolition, le danger, c'est que l'impression, c'est que pour se faire, mettons les villes, les maires des villes, pour se faire une belle jambe, de dire, moi, dans notre ville, il y aura plus de sacs en plastique. On a fait des conneries, pures conneries. Puis de vouloir les réduire, de trouver des alternatives, j'en suis là. Puis même les sacs réutilisables. Moi, il m'est arrivé des sacs réutilisables de mauvaise qualité. Première utilisation, d'abord à l'épicerie, ils te les remplissent un peu trop. Première utilisation,
déchire.
La ganse pète. Paf! Bon. Oui, déchire. C'est arrivé ça aussi. Là, tu le jettes. Tu dis, OK, mais en termes de quantité, parce que lui, il est épais, en termes de quantité de matière de déchets, c'est peut-être... 500 sacs en plastique ou 200, mais c'est beau. Parce que le sac en plastique, c'est minuscule. C'est une petite quantité de matière.
On se comprend.
Fait que là, tu dis, OK, j'ai-tu vraiment fait un gain? Mettons, c'est quasiment... J'ai jeté en une journée là, un équivalent de 6 mois de sacs en plastique.
Oui.
Que mais j'aurais remis dans ma poubelle de toute façon. Ou ramasser la litière des chats ou...
À voir si ça va réussir à faire des gains pour le parti, Mario. Mais pour
mais
les sacs, je comprends. Et ustensiles puis paille, là...
Les ustensiles en bois, ça, c'est une autre affaire. Hein?
Ben, moi, je trouve ça bien correct.
Ouais.
Ouais.
Mais pour certaines affaires, ça mange pas. Mais en plastique non plus. Les ustensiles. Les ustensiles
en plastique, c'était vraiment.
Moi là-dessus, je trouve que. Ouais. Les ustensiles en plastique, c'est terrible.
Le petit couteau en plastique qui plie à seconde de s'être coupé, quoi que ce soit.
Mais en bois, ça marche pas, puis ça donne un goût à certains aliments s'ils sont pas de bonne qualité. Mais ça, c'est vraiment un cas de dire les foires alimentaires, tout ça. On peut-tu se forcer? C'est parce que les gens les volent. Je sais, je l'ai dit.
Oui, tu l'as dit vite. Pis...
En métal, les gens les volent.
Mais tout le monde va y voler.
Mais ça n'a pas de bon sens. Là.
Les gens volent tout. Des restaurants, les restaurants se plaignent qui se font voler des verres, des ustensiles. Il n'y a pas un bar à Montréal, Mario, qui va dire « Ouais, on a encore tous nos verres de cadre, nos verres. » Les gens partent avec des verres dans les poches. Puis, ah ouais, donc.
Oh, j'ai rien dit.
Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
Il y a autre chose qui risque de faire jaser. Nos voisins de l'Ontario ont adopté de nouvelles mesures. Mario, après un certain temps de projet pilote, voici qu'on va mettre la limite de vitesse à 110 km/h sur à peu près 250 km d'autoroute provinciale à partir du 24 juillet prochain. Ça fait à peu près 2 ans donc qu'on était là, dans les cartons pour ça, faisant un projet pilote.
Des meilleures routes, de meilleure qualité.
Voilà, puis on essayait de voir si ça causait des agréments d'augmenter la limite de vitesse à 110.
On a le 100 km/h qu'on a au Québec, au Canada, c'est parmi les plus bas au monde, hein? En termes de limite de vitesse, c'est le minimum mondial. C'est parmi les plus bas au monde. Bon, je sais qu'on se défend au Québec en disant « Ah, mais c'est parce que nos routes sont tellement dégueulasses. » Bon.
Vrai.
Ouais, une fois ça dit, tu dis « OK, mais là, on peut-tu avoir des segments de route? » Mais moi, je suis plutôt de cette école-là. Parce qu'écoute, les véhicules se sont tellement améliorés. La qualité, la sécurité des véhicules. Si on parle des véhicules d'aujourd'hui puis ceux des années 70, ça n'a pas de bon sens qu'on ait la même limite de vitesse. Les véhicules sont beaucoup plus sécuritaires. Ils se conduisent quasiment eux-mêmes pour éviter les accidents. De toute façon, les accidents arrivent pas tellement, là, tu sais, sur des... T'sais, les accidents, quand ils arrivent sur les autoroutes, c'est souvent des comportements complètement déviants et pas juste quelqu'un qui prudemment roule un peu plus vite la limite.
Mais là, il y a des questionnements, par contre, Mario, parce que là, je veux bien, 110, la limite. Mais c'est quoi la vraie limite? Parce que ouais, là,
Présentement, on tolère 117, 118, selon ce que je comprends. Fait que là, c'est ça. Est-ce qu'à 110, tu tolères 127, 128?
Parce que si, la limite, c'est 110, mais en
on
haut,
tolère encore 117, 118,
ça change pas grand-chose.
C'est le statu quo.
Ouais.
C'est une bonne question.
Actualité.
Jugement assez intriguant, merci Mario, mis par le juge Denis Galiastanos en mars dernier, qui a fait sourciller pas mal, mais qui est assez intéressant, merci, surtout dans le climat en ce moment, des armes à feu puis de la prolifération des armes illégales à Montréal et un peu partout. C'est un juge qui a tranché en Cour du Québec sur le fait que fouiller un sac à main pour homme, un man purse en anglais, ce n'est pas de la discrimination. J'explique le cas, c'est comme un jeune homme qui a été arrêté, le Marcus Niméry, 25 ans, dans le coin du Centre Bell, est en train de se promener et il a de ses man purse. Là. C'est vraiment le terme qui est utilisé dans la rue. Petit sac
le
à main.
Le sac à main pour homme. Là,
ouais. Sac à main pour homme griffé la plupart du temps.
Un peu à la mode, là, c'est ça.
Un peu à la mode, mais ça, semble-t-il, que c'est l'endroit favori pour les gens du crime organisé et d'autres milieux criminels pour cacher leurs armes illégales. C'est tellement un modus operandi fréquent qu'à l'école de police, là, quand on fait une formation pour détecter puis contrôler les armes, on dit que c'est un des endroits à repérer en premier lieu. Ce qui fait en sorte que ben M. Niméry s'est fait arrêter sur place, on lui a demandé d'ouvrir son sac et hop, qu'est-ce qu'on trouve dedans? 5 000 $ en argent comptant et une arme qui a été même trafiquée pour qu'on puisse tirer de manière automatique avec le pistolet. Et là, ben au procès, l'avocat de M. Niméry a essayé de faire invalider tout ça en disant, mais regardez, c'est du profit village, mon client, vous n'avez pas le droit d'arrêter les gens dans la rue pour fouiller dans leur sacoche. Mais le juge a tranché en disant c'est pas un accessoire qui est lié ni à culture, ni à l'identité, ni à l'intégrité de qui que ce soit, ni à une couleur de peau.
Mais est-ce qu'on peut fouiller la sacoche d'une femme?
Ça, c'est une bonne question, mais est-ce que...
Parce que là, c'est pas... Faut que ce soit, c'est le même objet, là, essentiellement. C'est pas la même forme. Souvent, les femmes vont avoir une ganse que les hommes n'ont pas. Ça va être différent comme objet, mais en termes d'utilité, c'est le même objet. Tu peux pas avoir des règles différentes, là.
Mais ça va peut-être faire jurisprudence là-dessus, Mario. Ça va être à voir, mais je trouvais quand même intéressant qu'on se soit penché particulièrement sur ce.
Mais en tout cas, dans le cas qui nous occupe, on a trouvé de quoi, là? On a trouvé, on n'a pas fouillé au hasard, on a trouvé de l'argent comptant suspect puis une arme à feu illégale.
Il y avait des policiers impliqués dans le dossier. Lui, il dit, c'est pas compliqué, j'ai trouvé 30 armes de poing que j'ai saisies dans ma carrière. 80% de ces 30 armes-là, c'était dans des man purses.
Ah ouais?
Ouais.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
En terminant, Mario, statistique intéressante qui vient quand même faire du bien là, alors qu'on entend tellement de désinformations sur les vaccins. Ben oui, je vous parle de vaccins encore et toujours parce que dans la revue scientifique prestigieuse de Lancet, on a une étude de l'Organisation mondiale de la santé qui est venue faire une espèce de calcul à savoir combien de gens sont sauvés par la vaccination dans le monde. Puis là, je parle même pas de vaccin COVID. Là. Je parle de vaccination en tout genre.
Toutes les maladies infantiles, les maladies graves, les maladies mortelles de voyageurs.
Ben, on a tendance à l'oublier, Mario, avec toute la désinformation, mais c'est... Là, on étudiait 14 maladies précisément. Là. Même pas les autres. La COVID n'en fait pas partie. Là. C'est diphtérie, hépatite B, rougeole, coqueluche, tétanos, fièvre jaune, entre autres, qui étaient dans tout ça. Et on se rend compte que dans les 50 dernières années, c'est 154 millions de vies humaines qui auraient été sauvées grâce à la vaccination. La très, très forte proportion là-dedans, ben c'est des nourrissons, des enfants qui n'auraient jamais passé l'âge de 5 ans sans la vaccination. Là,
non,
c'est...
mais je veux dire, les taux, depuis la vaccination et la salubrité, la mortalité infantile, ça a baissé.
40% dans le monde, mortalité infantile qui a baissé, 50% et en haut en Afrique, dépendamment du pays, entre autres.
Ouais, on est dans un autre monde. Là, autrefois, je veux dire, rendre un bébé à un an, là, c'était déjà quelque chose. Là. Maintenant, un bébé qui meurt, c'est une catastrophe, c'est un événement. Notre perception de perdre un bébé a changé beaucoup avec la santé. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.